Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au mastic. On est dans le Super Moscato Show. Vous savez qu'on est là tous les jours de 15h à 18h du lundi au vendredi, me semble. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Nous sommes avec Marion Bartoli, la petite Bartole. Comment elle va?
Elle va très bien.
Bon, t'es en forme?
Bon, un peu moins bien parce qu'il reste beaucoup de Français, mais bon.
Quel match hier, là. Quel match. Ce 3-0, c'était pas mérité, quand même.
Duquel. Mais... Arrête, je m'en fous, je pars à 16h.
Tu pars à
16h. Va chambrer, Eric, je m'en fous complètement.
Tu te défiles, Marion. Nous sommes avec un mec qui a un peu de la pédale. Un mec qui avait un joli coup de pédale. Jérôme Pinot, comment il va? Excusez-moi, je fais pas ce que je voulais dire au départ.
Supporter de l'OM aussi, Jérôme.
Exactement. Non, on va pas se retrouver comme des supporters de l'OM non plus, quand même. Non, mais c'est contagieux, ouais. Ce truc-là. Ça te chope pas, ça vous fout pas des...
C'est le club le plus populaire.
Ah bah, il y en a pas mal, quand même.
C'est pour ça que souvent, après les matchs, vous avez des plaques rouges. Vous avez des plaques rouges un peu partout dans le coin.
Les trois quarts de la France sont très silencieux après ces matchs comme hier soir.
C'est ça qui est bien. En plus, ils exagèrent pas quand ils disent trois quarts. Tu aurais pu dire 7-8e, je pense.
Ouais, 7-8e. À part Paris, tout le reste.
10%.
À part vous, là-bas, dans votre région Île-de-France, le reste c'est marseillais. Qu'est-ce que tu veux?
Ça va, Jérôme, t'es en forme?
Ça va, et la grande forme.
Tu fais un peu de vélo de temps en temps?
Écoute, avec le temps qu'il fait en Bretagne, le vélo il reste, ouais, il me regarde, je lui dis non, on y va pas aujourd'hui.
Quand je dis qu'il a beaucoup de pédales, 14 Tours de France, Jérôme Pinot, c'est pas rien quand même. C'est le mec quand même, il a fait quelques milliers de kilomètres au compteur. Et il y en a un qui a quelques milliers de kilomètres au compteur, c'est rien.
Comment ça va?
Pas pour les mêmes raisons.
Comment ça va? Ça fait le Jérôme, ça fait plaisir. Question moyenne. Alors elle est magnifique parce que Marion, tu viens de dire que tu pars, t'en vas à 16h. Mais il y a une question moyenne qui concerne en partie l'Olympique de Marseille. Je la trouve géniale.
Tu peux pas t'en empêcher. Hein.
Non,
tu peux pas
toute la rédaction a travaillé depuis 8h ce matin. Je la trouve exceptionnelle. Il y a un joli choc samedi, hein, 21h05. C'est le choc de Ligue 1, OM Lens. Question moyenne. Vous êtes Vous êtes un président d'un bon club, un bon club de Ligue 1, par exemple Lyon, Monaco, un joli bon club. Vous recrutez quel entraîneur pour 2 ans?
Oui.
Roberto De Zerbi ou Pierre Sage? Quel entraîneur vous recrutez si vous êtes un président de Ligue 1 aujourd'hui? Un club qui compte, prenez qui?
Ah, moi je me laisserais à la Pierre Sage.
Tu te laisserais à la Pierre Sage?
Ouais, parce que
c'est terrible, hein.
Là, de Zerbi, le problème c'est qu'il te prend contre-pied tout le temps. Des fois tu te dis, ouais, il est pas mauvais. Puis 3 jours après, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est quand même difficile, quoi. D'adhérer à De Zerbi, c'est dur.
Marion Bartoli.
Bah, moi, écoute, j'ai eu une discussion avec Pep Guardiola à l'US Open qui m'a dit que De Zerbi était un immense entraîneur. Donc, j'ai plutôt su quand même les recommandations de Pep Guardiola. Non, donc, je vais dire Roberto De Zerbi.
Jette-nous tes connaissances à la preuve.
Non, mais Marion, c'est un peu la Denis Charvet au féminin.
Ouais, c'est incroyable.
Tout ce qui brille.
La référence.
Non, mais attends. C'est fou. On va aller aux Alouettes, on va te mettre là, tu vas tout nous
attirer. Tu sais que si Denis avait entendu cette anecdote, il serait pleuré.
Il serait énervé.
En plus,
il serait énervé. On va pas lui dire.
Cette question est terrible puisque les deux ont exactement le même âge, 46 ans. Ce sont de jeunes entraîneurs.
C'est Denis et Marion?
Non, De Zerbi et Sage. Et d'un qui a la carte et l'autre qui l'a pas, comme on dit dans le foot. Jérôme Pinot, tu prends qui aujourd'hui?
Alors moi j'ai croisé Robert Dumont ce matin au tournoi de Six.
Au Sulky.
au bar PMU de Sulky de Pornic, et il m'a dit plutôt Pierre Sage.
Pierre Sage.
Prendre un entraîneur qui est capable de faire jouer Pavard ailier droit. Ça prend des risques quand même.
Ouais, c'est vrai. On va en parler.
Ah non, mais moi, pour la Ligue 1, je prends Pierre Sage.
Parce que tu fais pas confiance au produit.
Si la question se pose à un niveau supérieur, peut-être je réfléchis à De Zerbi, mais pour la Ligue 1, c'est sûr qu'il faut aller sur Pierre Sage.
Pour la Ligue 1, tu fais Pierre Sage.
Ah, pour la club du Mexique.
Oui,
la roue tourne, comme disait Franck Ribéry.
La roue tourne va tourner.
Vous répondez pour l'instant sur Twitter. Et il nous écoute, Pierre Sage, il écoute RMC régulièrement. Vous répondez Pierre Sage à 87%.
Je crois que l'OCL. L'autre, c'est Canada Dry. On aurait dit de l'alcool, mais ça n'était pas. De Zerbi, on aurait dit un bon entraîneur,
Il est jeune, il va pouvoir progresser.
Qui De Zerbi? Il est jeune.
Il a 46 ans.
Bah, 46 ans, des frites.
C'était pas bon.
Oh,
46 ans,
t'es
encore un jeune homme plein d'espoir.
Mais non, c'est ta femme. Ta femme, elle te fait croire.
Jérôme, il a le démon de midi.
Oui, voilà. ton épouse te fait croire que t'es encore vert, mais en vérité, elle te tire la langue quand t'as le dos tourné.
Voilà, ça dépend.
Alors, l'OM est mêlé à 16h. L'OM est-il passé à côté?
Elle te trompe avec Van der Poel.
De l'événement.
C'est nul. Il a dit Van der Poel, il a rigolé.
C'est la classe, c'est drôle.
Allez, donc l'OM, on en parle à 16h. L'OM est-il passé à côté de l'événement? Vincent règle le problème. Et De Zerbi règle le problème de ses joueurs. Tu vas voir qu'il est sans pitié. Fabien Galthié joue-t-il gros face à l'Irlande? C'est notre débat midi olympique. Non. Mais le rugby, on en parle aussi à 15h30 avec Tom Staniforce, Vincent, qu'on va vous faire découvrir évidemment, juste après le fiasco français à Melbourne. Et puis à 17h30, on va vivre un truc, ça va chahuter. Soyez bien avec nous puisqu'on sera en pleine mer avec ceux qui vont peut-être battre le record du monde, du tour du monde à la voile, à bord de Sodebo. Sauf que les conditions sont très difficiles, nous dit-on. Donc ça peut être musclé à 17h30.
Est-ce que c'est combien ils ont d'avance par rapport au dernier?
Ils ont quelques heures d'avance. Donc ils ont de quoi le battre, le record, mais il faut qu'il leur arrive aucune avarie.
Avec Fred Pouillet de savoir, il m'a dit ils ont 6 000 d'avance.
J'ai dit
6 000 miles d'avance. Donc ça fait 10 000 km. Je lui dis non, c'est impossible. Il m'a dit si, il m'a montré sur la carte. Donc c'est impossible. Donc ils ont quelques heures d'avance.
Ils ont quelques heures d'avance.
Ils n'ont pas 10 000 km d'avance.
Non, ils n'ont pas 10 000 km
d'avance. Puisque le tour, c'est 20 000 km le tour du monde à peu près.
Alors, c'est sûr que si t'as la moitié de son
temps, t'as gagné.
Et alors après, la filière me disait ils sont à 10 000 km/h. Moi, je lui mettais tais-toi parce que ça va mal se passer.
Rendez-vous à 17h30. On sera en pleine mer en direct avec Benjamin Schwartz à bord de Sodebo. Dans le Kikadi, votre PC portable de la marque Altic. Alors, c'est une marque, ça va faire plaisir à Jérôme Pinault. Une marque française installée à Nantes avec un vrai ancrage local.
Exactement.
Tu connais Altic?
Ah, pas du tout.
Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16.
Il n'y a pas trop d'usine chez vous quand même.
Et puis dernière chose.
Ça usine, mais il n'y a pas d'usine.
Le programme du journal moyen.
Oui, Vincent, c'est la révolution en rugby à la télé. TF1 a dévoilé son dispositif pour les matchs de tournoi. Tu vas me dire si tu valides ou pas, te convient ou pas, si tu vas te régaler. Parce qu'on va moins entendre Mathieu Lartaud et Dimitri Ajvili pendant ce tournoi.
Ça me fait un peu de peine de ne pas entendre Mathieu et Dimitri.
Et puis culture cinéma, on va chercher un acteur pour incarner Johnny au cinéma. Rendez-vous 15h45.
Ah ben moi, je le connais, c'est le mec à sa voix.
Il faut être acteur.
Mais c'est comme quand tu fais un film sur la boxe, il faut un boxeur. Je te dis, autrement, ça marche pas. Donc après, avec les maquillages.
Il est pas sur la shortlist.
Ah, ben c'est une erreur. C'est une erreur terrible. Il te faut. Tu sais, Poulvord, quand il faisait Claude François, il était très beau parce que Poulvord, il chante. Et il imitait Claude François superbement bien.
Il cherche
mais c'est
le plus dur.
Mais c'est le plus dur quand tu vois des films. Quand j'avais vu La Môme avec Cotillard, le boxeur qui incarnait, il savait pas boxer. Et ça se voyait. Donc ils ont été obligés de couper tout ça. Et le film était merveilleux, mais c'était dur. Johnny, ils ont un mec, c'est la même voix que Johnny, il faut qu'ils le prennent. Après, ils me foutent un masque comme les masques de Raymond Barre.
Il faut jouer la comédie, il faut jouer la comédie.
À la texte et tout ça. Ils me mettent un masque et puis voilà.
Ils se trompent parce que s'ils lui mettent le masque de Raymond Barre pour faire Johnny,
ça va être chaud. Je viens de chercher. J'étais en train de chercher d'où sortait Raymond Barre. Je me suis dit,
c'est les masques qu'on mettait dans Brigade.
Bien sûr, Chirac, évidemment.
Avant le tennis, une dernière chose. Donc, on vous offre un très très beau cadeau, votre expérience RMC mercredi 28 janvier, PSG Newcastle en Ligue des Champions au Parc des Princes, avec évidemment les émissions d'RMC avant et après le match. Dès que vous entendez la petite musique de la Ligue des Champions, c'est le signal pour vous inscrire. Donc écoutez bien le super Moscato Show. Tout de suite, le tennis français, ce n'est qu'une question de perception finalement.
RMC, le super Moscato Show.
Et si je vous disais que la plus grande erreur d'analyse du tennis français, c'est nous?
Mais nous, en fait, notre gros problème, c'est qu'on change d'avis comme deux paires de chemises.
Toujours la même rengaine, aucun grand chelem.
Ils ont quand même disputé chacun 9 finales de chelem communes, donc...
Des talents gâchés.
On espère que si Hugo gagne, il nous paiera un verre.
Une génération qui a déçu.
J'ai pas de regrets. Moi, j'ai un
peu. Parce qu'on oublie trop souvent que nos Français nous ont offert des demi-finales en grand chelem.
Ton cousin français, Arthur Rinderschneck.
Rinderberg. Rinderschneck.
La victoire contre les plus grands.
Mais les deux, Sadiq et Salamananta.
Des épopées qui méritent l'admiration.
En fait, il n'y en a pas, c'est sur ça que j'ai jamais joué.
Et si cette génération était en réalité l'une des plus grandes que le tennis français ait jamais connue?
Je déteste la technique du garçon.
Non, mais ça, c'est typiquement les joueurs qui ne savent pas jouer, qui disent des trucs pareils.
Breaking news.
si vous l'avez saqué ce jour-là.
J'ai compris pourquoi aujourd'hui il n'a pas voulu venir.
Le fiasco était attendu.
J'ai compris.
Je vous presse parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le fiasco est là. Alors qu'on a à peine terminé le deuxième tour, il ne reste plus qu'un joueur français, c'est Corentin Moutet. Bon, le problème, c'est qu'il va jouer Alcaraz la nuit prochaine. C'est pas nouveau, donc c'est pas une surprise, mais on a même peu eu droit à un petit frisson. Et on va en parler parce que ce matin, il s'est quand même passé quelque chose. Le fiasco français à Melbourne, on en parlait avec vous au 32-16. Et Anthony Reich va nous parler de ce garçon, Arthur Géa, que l'on découvre. Salut Arthur, salut Anthony.
Bonjour à tous.
C'est un joueur sorti de nulle part, donc il a été valeureux hein, quand même dans un 5-7 face à Wawrinka. Le problème, c'est qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui perdent, Anthony.
Oui, une défaite en 4h33 de jeu, un énorme combat pour Arthur Géa, qui jouait là le premier match en 5-7 de sa carrière pour sa première participation à un tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. Le français 198e joueur mondial a fini par craquer physiquement, notamment dans le super tie-break du 5e set. Dernière manche de cette rencontre où il a ressenti des débuts de crampes, mais Géa a été combatif tout de même tout au long de la rencontre, comme quand il a sauvé 4 balles de 5 jeux à 3 contre lui dans la dernière manche, jouant très souvent juste. Il lui aura manqué un peu d'efficacité, notamment en première balle au service, et puis cette condition physique, tu le disais Pierrot dans le Money Time, c'est néanmoins une belle promesse certainement dans cet Open d'Australie raté pour le clan français, car avec l'élimination de Varvara Gracheva un petit peu plus tard dans la journée dans le tableau féminin, il n'y a donc plus qu'un seul tricolore encore en lice, Corentin Moutet, qui défie la nuit prochaine un certain Carlos Alcaraz.
Vincent, on a envie de s'emballer dès qu'un joueur français fait une petite perf. Là, on l'a presque eu avec Arthur Géa, ça va Wawrinka.
On s'emballe parce que faute de gris, on mange des merdes. Donc, automatiquement, tu te dis, peut-être qu'il y a un gamin qui va arriver, qui va secouer tout. Et puis, on le voit physiquement. Alors, attention, physiquement, c'est son premier match en moins de 5 heures, enfin, en 4 heures et quelques. L'autre, c'est un routier, c'est un costaud à 40 ans. Tu peux être encore costaud physiquement à 40 ans. Tu peux te faire battre parfois en vitesse, tout ça, mais tu peux garder du fond, de la caisse. Ce qu'il a, Wawrinka, il a l'air d'en regarder. Puis il faut pas. Combien il a gagné de grands chelem? Il a gagné trois grands chelem. Donc attention, à 40 ans, un mec a gagné 3 grands chelem contre un gamin qui a jamais fait plus qu'un Aspro 250. Tu comprends bien qu'il y a une grosse différence. Après, physiquement, il faut s'entraîner sur 5 heures. Et là, quand même, si tu peux pas avoir des crampes à 21 ans, faut s'entraîner sur 5 heures.
C'est pas normal pour toi, ça peut l'entraînement.
Arriver. Mais à l'entraînement, faut te faire mal, papa. Oui. C'est ce que je t'avais dit au gamin. J'avais dit, fais de la boxe. C'est qui que j'avais reçu, là, qu'on avait reçu ensemble, là?
Rinderknecht,
là, j'avais dit.
Tu lui avais dit, fais de la boxe.
Va la boxe. Vous êtes entraîné. Vous avez des méthodes d'entraînement. C'est pour les gosses. C'est pour les cadets. Fais-toi mal. Sors pas, sors un peu.
T'as pas été venu dans le Moscato Show. Tu t'es fait engueuler.
Ah oui, je lui dis, c'est pour rester avec le même physique d'oiseaux que les autres, c'est pas la peine
parce qu'il était tout fin en plus.
Il était fin, qu'on pas de canne, des rotules de berger allemand, que dalle, rien. J'ai dit bouge-toi, pourquoi? Parce que tu vas rester là où t'es, on t'a pris, tu vas y rester. Donc, le petit 21 ans, des poumons asthmatiques, un cœur de rouge-gorge, ça n'en veut plus, on pardonne une fois,
mais pas d'autre, plus de crampes.
Là maintenant, tu vas t'entraîner sur 5 heures, tu vas te lever le matin à 6 heures, tu vas revenir à midi à l'entraînement, tu vas revenir le soir, tant que tu tiens pas 5 heures, tu te fous plus le cul sur un cours de tennis. C'est pas normal, quand même, le vieux, boum, 40 ans, une petite sache devant.
Oh, il est fit là en ce moment.
Oui, il est fit, mais toujours un peu la nombrale. Le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale, toujours un tout petit peu.
Il est prêt quand même.
Wawrinka. Mais bon, après le métier, 40 ans, c'est rude, quoi, c'est rude.
Après, le gamin, comme tu dis, il a quand même fait quelque chose d'assez extraordinaire parce que Marion, découvrir un grand chelem quand t'as jamais joué mieux qu'à 250, c'est quand même quelque chose. Faut l'appréhender aussi, hein.
Mais totalement. Et puis surtout, les seuls grands chelems qu'Arthur avait joué auparavant, c'était à Roland-Garros grâce à des invitations, à ce qu'on appelle des wildcards, et même pas dans le tableau final, dans les qualifications. Il n'a pas pu participer à Wimbledon ni à l'US Open parce qu'il n'avait pas le classement. Pour lui, déjà arriver à se qualifier, c'était un vrai
exploit. Et bien,
surtout, il bat un très bon joueur au premier tour et tableau final, en battant Jiří Leška, qui est top 30 mondial, en battant en 3-7. Je pense pas qu'on puisse lui en vouloir sur la totalité du bilan français, par rapport à cette défaite qui effectivement est cruelle. Alors, je suis d'accord qu'il a été rattrapé par les crampes sur la fin du manche. sur la fin du match, pardon. Mais Wawrinka, il faut quand même se le cogner. C'est un joueur qui a été capable d'aller gagner l'Open d'Australie en 2014, qui a battu Novak Djokovic sur des finales de Grand Chelem. C'est un immense champion. Et puis surtout, on l'a vu sur ses réseaux sociaux, il a fait une énorme préparation. Il a rappelé son préparateur physique de toujours, qui a préparé.
Ah oui, c'est tout l'un ou tout l'autre, Wawrinka. Quand il fait des prépas, c'est tout dans un sens ou tout à l'envers.
Exactement. Mais c'est sa dernière saison. Donc, bien évidemment, il veut essayer.
Il est prêt. Il est prêt aussi.
De donner le meilleur possible. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans l'apprentissage pour Arthur, c'est que finalement, quand on regarde les stats complètes du match, on voit que c'est Stan qui a fait plus le jeu, qui a été chercher plus les points gagnants dans des moments très importants. Et ça, bien évidemment, c'est le métier qui peut te permettre, dans ces moments chauds, de savoir quel type de jeu il faut pratiquer, quel type de coup il faut choisir. Ça sera un très bel apprentissage pour lui. Mais il faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, c'était le 50e match en 5-7 en tournoi du Grand Chelem pour Stan Wawrinka.
Ah oui,
donc, 50 matchs en 5-7 dans les jambes. Voilà, dans il sait exactement comment gérer ses efforts. À quel moment il faut accélérer, à quel moment il faut un peu plus garder ses réserves aussi, parce que les matchs en 5-7, c'est beaucoup de gestion de l'effort. Et ça, je pense qu'Arthur Géat, très honnêtement, n'a pas pour l'instant l'expérience là-dessus, mais c'est quelqu'un qui va progresser, qui est en pleine progression. En revanche, le bilan total, effectivement, du tennis français, c'est quand même le pire depuis 1991. Et ça, il faut quand même le dire.
Elle est là, la problématique, Jérôme. Marion. Elle est là, la problématique, c'est que le gamin, il coince dans la cinquième heure. C'est comme un gaguin qui sort des juniors et qui veut s'attaquer à Liège-Bastogne-Liège dans le final, il va coincer. En revanche, la problématique du tennis français, c'est que d'une part, avant on attendait la deuxième semaine. Bon, bah là, il n'y a même pas de deuxième semaine. On est à la moitié de la première, il n'y a plus personne. Et surtout, quand tu regardes les matchs, c'est que des matchs perdus contre des mecs mieux classés. Donc ça veut dire que la base des classements des Français, bah c'est catastrophique, c'est cataclysmique pour un pays où le tennis est quand même un sport majeur. Aujourd'hui, t'attends quoi? T'attends que Moutet batte Alcaraz? Donc non. Terminé, bonsoir. La deuxième semaine, tu regardes pas. T'es pas invité en deuxième semaine quand t'es tennis français. Il y a quand même un vrai souci. Si t'attends l'exploit d'un gamin qui a 21 ans, qui sait pas jouer au-delà de 3 heures face à un mec comme Wawrinka, qui est un des routiers du circuit, bah, je suis désolé, il va falloir se poser des vraies questions parce que là, le gamin, il peut pas porter tout. Alors évidemment, nous, ça va nous faire frissonner, mais s'il fait 5 heures et qu'il bat Wawrinka, prochain match, il est sorti en 3-7 parce qu'il est cramé. Donc il y a un vrai sujet de fond.
Il ne peut pas tomber sur lui, quoi.
Et pas que le fond sur Arthur Géat, parce que lui, le pauvre, il est là, il ne sait même pas pourquoi il a invité au bal, lui.
Non, mais quand on entend que Wawrinka a fait une très grosse prépa physique, si Wawrinka l'a fait, tout le monde peut le faire, quand même.
Mais t'as volume de temps passé au fur et à mesure des années.
Bien sûr.
Demander à un garçon qui a seulement 21 ans et qui vient de les avoir.
Après, crampé, Marion, franchement, crampé. 21 pistes.
Oui, mais t'as les crampes de stress.
Tu vas faire un tournoi du Grand Chelem. Tu sais que tu peux jouer 5 heures.
Non, peut-être mais Jérôme,
tu fais pas des entraînements de 2h30, quoi. Moi, je m'inscris pas à Liège-Bastogne-Liège si je passe pas 3 heures de vélo. Tu vois, à un moment donné, il faut y aller aussi, quoi.
T'as aussi des crampes de stress. Alcaraz, il a crampé sur Novak Djokovic à Roland-Garros. C'était pas dû au volume horaire qu'il n'est pas capable d'assumer. Donc t'as aussi le problème du stress, de l'hydratation. T'as beaucoup d'éléments qui rentrent en compte sur un problème de crampe à la fin. Mais c'était à la toute fin du match sur les 10 dernières minutes. Il a tenu 4h30.
Non, mais c'est sûr que sur le fond,
très fortement. C'est que t'as quand même qu'au deuxième tour, on parle du deuxième tour, hein, t'avais plus que 6 Français ou Françaises confondus, 4 chez les garçons et que 2 chez les filles au deuxième tour. Sur
c'est ça, papa,
Suisse,
c'est qu'à un moment donné, on nous parlait de la deuxième semaine, là on parle de la deuxième journée, gros.
Mais c'est ça.
On va parler de la deuxième minute.
Alors le fiasco du tennis français à Melbourne, on en parle avec Eli au 32-16.
Oui. Comment ça va, Eli?
Salut, Eli.
Salut, Vincent. Salut, bonjour à tous. Qu'est-ce que
Eli, organisateur de tournoi de tennis à Montauban.
J'habite à Montauban, mais j'organise pas de tournoi à Montauban.
T'imagines?
Il n'y a pas encore de grand chelem à Montauban.
Tu connais Jean-Louis Ressayer, non? Dans Montauban, non?
Je voulais prendre la défense d'Arthur parce que je trouve que Vincent était un peu dur avec lui par rapport aux crampes. Et puis tous ceux qui disent qu'il crampe, il doit s'entraîner, etc. Il s'entraîne très dur, très très dur. Les crampes, c'est des crampes d'émotion et de stress, comme disait Marion. Alcaraz l'a vécu, Coria l'a vécu en finale de Roland contre Gaudio. Il mène 6-0, 6-2. Il n'y a aucune raison que ça parte en sucette. Et tout d'un coup, il a des crampes. Ça n'a rien à voir avec le physique. Le garçon, il travaille son physique. Je peux vous dire, je le connais assez bien. Je sais que ça bosse très dur. Donc, la dimension mentale dans le tennis, on sait tous qu'elle est monstrueuse. Et à ce moment-là, il arrive du moment le plus complexe de sa carrière face à un mec qui avait tout vécu dans le tennis. Donc, Wawrinka, quand il arrive au Super Tiebreak, Bah, il a gagné. Il sait que c'est comme une équipe qui est très faible et qui arrive au tir au but au foot. Il sait qu'il est là où il veut être. Alors que pour Arthur, c'est le contraire, en fait. C'est très difficile parce que.
On a que des mecs qui connaissent les gosses. Toi, tu connais le tennisman. L'autre, elle connaît Pep Guardiola.
Nous, on connaît qui? Nous, on connaît Tenam. Nous, on connaît Tony Chardet.
Yannick Noam.
Si je peux rajouter.
Yannick Noam, ça commence à dater quand même.
Vas-y, Marion.
Si je peux juste rajouter, je pense que ça lui servira de leçon. Parce qu'Arthur avait déclaré avant le match, à mon avis, à 40 ans, ça va être compliqué de faire bouger les jambes, donc je vais essayer de le fatiguer. Ah ouais. Et bien sûr, Stan Wawrinka a répondu sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça lui servira aussi. Voilà, avant les matchs, il ne faut pas trop parler. Avant les matchs, il ne faut pas trop parler.
Wawrinka, après le match, il a dit j'ai le droit de boire une bière. Voilà, il en est là, Wawrinka. Oui. Il a 40 ans.
Il a gagné son premier grand chelem à 29 ans, Stan.
Alors après, c'est des vieux chiens, ça mord, c'est costaud, ça a du rythme. Il a 40 ans, tu as raison de le préciser, Marion. Il ne faut pas croire qu'à 40 ans, tu es cramé. Sur le fond, l'expérience et tout. Les mecs, ils ont, en vélo, tu le vois, t'as des mecs qui ont 37, 38 ans, qui ont du fond, qui avancent.
Alors après, j'ai perdu que la salle a gagné Paris-Roubaix à 40 ans, les gars.
Même 42. Je sais pas s'il n'y avait pas 42, il a gagné deux fois, non? Un truc comme ça, non?
Deux fois. La deuxième fois, 40 ans passés.
Écoute-moi, il y a des mecs qui sont costauds encore à 40 ans.
Le problème,
c'est le problème de la récup à cet âge-là. Parce que tu peux garder, bon, la technicité, tu la gardes, mais la récup, tu l'as pas. C'est le lendemain, quand tu rattaques derrière,
des fois, le lendemain, ça
merci à Anthony Reich pour le sujet.
Merci,
sur
ton ligne,
Arthur Géa, qui est quand même une promesse.
On va le courager, ce drôle, parce qu'il a des qualités. Mais...
T'as déjà eu des crampes d'émotion, toi, Vincent?
Ouais, une fois à l'apéro, j'ai chopé une crampe, mon pauvre Omar. Ça faisait 6 heures que j'étais en fauteuil Bayonne de bouche. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Le mec, il m'a dit, c'est l'émotion. J'ai dit, c'est pas la bière.
Tu t'es pas entraîné à l'émotion, ma vie.
Tu sais que moi, j'avais chopé, en écrivant, une fois, j'avais chopé une crampe au droit.
Un écrivain, un roman. Dans un instant, Tom Staniforth, c'est le cri du cœur du Super Moscato Show. C'est aussi le cri du cœur de Fabien Galthié, qui a convoqué cet Australien dans le 15 de France. On reparle justement de cette règle un peu particulière dans le rugby. Un Australien peut porter le maillot bleu.
Mais oui, on est pour l'intégration, on est social. Qu'est-ce que tu veux, c'est le rugby. 15h26, le Super Moscato Show. On vient tout
l'humanisme.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h31, on y revient, on mastique dans le Super Moscato Show avec Marion Bartoli, bien sûr, Jérôme Pinot, Adrien Gouet, mon petit Adrien. Mon petit Pierrot, dans une demi-heure,
l'OM est-il passé à côté de l'événement? Parce que c'était un événement. Je ne sais pas si tu as vu l'avant-match.
Marion ne l'a pas plus.
Franchement, Vincent, c'était magnifique. Hein, avec Roland, notamment.
Il me l'avait fait chouflu. Quand
oui, alors tu as vu ça?
Ouais,
il avait des
très bonne précision d'Eric. On en a parlé avec Eric Dimeco de notre groupe WhatsApp. Époque marseillaise, Roland avait pris un peu de poids à l'époque. Parce qu'entraîner l'OM, c'est stressant.
Et donc, sur le tifo, le magnifique tifo que les supporters marseillais ont brandi hier avant-match, donc on avait cette tête de Roland Courbis un peu joufflu. Nous a étonné. Mais on y reviendra à 16h. L'OM est-il passé à côté de son événement? D'abord, le rugby revient.
RMC.
Le cri du cœur du Super Moscato Show.
Le Moscato Show, c'est la seule émission qui parle de rugby tous les jours.
Et ça, on tient à le préciser. Parce qu'on en est fiers. On est fiers. On a la thème. Et là, tu sais du joufflu.
Là, on est sur l'équipe de France, mais demain, on a Toulouse-Pau. Hein.
Toulouse-Pau.
Quand même, c'est l'affiche du week-end.
Ça va être chaud parce que ça peut être une finale.
Il y a Perpignan-Montauban aussi.
Ça peut être une finale, ça, Toulouse-Pau.
Ils sont bien pour
le mois de juin.
Et alors là, on va à Castres. Vous présentez l'invité surprise du 15 de France. Il s'appelle Tom Staniforth. Pierre Thévenet, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Et la deuxième ligne de Castres est australien et il est donc éligible au 15 de France. Alors, il y a un truc qui le définit en tant que joueur. Il a été trois saisons d'affilée, meilleur plaqueur du top 14.
Exactement. Et vous avez déjà doute vu son long mulet blond très sur joli. Les pelouses de top 14. Magnifique, Staniforth, 31 ans, un peu moins de 2 mètres et de 120 kilos, qui a débarqué d'Australie dans le Tarn en 2020. Gros porteur et grosse capacité à se déplacer, confie à son manager Sadourny. Très complet aussi, puisqu'il peut être utilisé en touche. Meilleur plaqueur, tu l'as dit, Pierrot, sur 3 saisons entre 2021 et 2024. Galthié a donc préféré son profil à ceux de Romain Taofifenua et du palois Jimmy Maximin, par exemple. Mais Vincent, c'est presque un miracle qu'il soit dans cette liste. Il a été opéré de la cheville au début de la saison dernière. Il n'a pas joué en top 14 pendant 15 mois. Il y a un an, il n'arrivait même pas à rester debout très longtemps dans la vie de tous les jours, mais il n'a pas lâché. Le directeur du CO, Mathias Roland, avoue que son joueur a depuis un moment cette Coupe du Monde chez lui, dans la tête, en Australie. Il est sélectionnable car il dispose de ses 5 ans en tant que résident en France, licencié à la FFR. Sa demande de passeport français est en cours. court. Mais à l'image de l'Uruguayen Capo Ortega ou du Sud-Africain Rory Cocotte, il est déjà naturalisé castré.
C'est vrai que castre et ce genre d'histoire arrive régulièrement.
C'est vrai.
Avec c'est Rory familial, Cocotte, quand même. T'as beau dire que ça aide les mecs. C'est un truc de famille. Les mecs sont toujours ensemble. Ouais, parce qu'ils sont toujours ensemble. Quand tu vis à Paris ou dans des grandes villes, à Lyon ou n'importe quoi, les mecs sont ensemble. Là, castre les types, ils sont toujours là.
Ils deviennent castrés.
Ils deviennent castrés. Ouais. C'est... Et puis en plus, c'est une belle région. C'est le Tarn, c'est chez moi, donc c'est une très belle région. Tu te régales. Tu
vois, Toscane.
Tu vois, au Cep. Oui, c'est un peu. Tu vois, au Cep.
Il allait à la chasse, il allait aux champignons.
Oui, la Bretagne où tu t'échelles et qu'il pleut et tout ça.
Oh, tu vois, Cep en Bretagne aussi.
Et clairement, s'il n'y a pas cette blessure, il serait meilleur plaqueur 4 ou 5 saisons d'affilée.
Non, mais c'est énorme. Quand tu joues deuxième ligne, que
c'est
meilleur
plaqueur. C'est pour ça que Fabien l'appelle, non? Parce que Maximin de Pau fait un gros début de saison, il aurait très bien pu être.
Avec les data. Avec les data. Non, je vais louper, ça peut arriver. Avec les data, tu peux. T'es au courant de tout, il n'y a plus de.
C'est implacable.
Il n'y a plus de mecs, des fois, t'étais sélectionné à sensation. Ouais, putain, il me semble que non. Là,
tant de plaquages.
Combien de plaquages?
C'est les datas qui marquent les essais aussi.
Et c'est, non, mais non, c'est pas les datas qui marquent les essais, mais par rapport au deuxième ligne. Tu sors pas en premier de la mêlée. Les troisième lignes sont premiers. Quand tu vois que lui, comme il sort avant la première ligne, mais derrière la troisième ligne, c'est un mec qui marque énormément d'essais. Ça veut dire qu'il a une disponibilité, une course. C'est un mec qui court comme une bête. Quand je dis, tu fous une date à un verre d'eau, il traverse le désert de Mauritanie. Hein. Alors, fais 120 kilos. Si tu le mets sur un, tu le mets sur un vélo, il te monte l'école, en rigolant,
il fait le ventre comme ça,
22 kilos, il monte, imagine.
Je voudrais avoir l'avis de Marion et de Jérôme sur cette spécificité du rugby qui permet de sélectionner des gens qui n'ont pas la nationalité. Est-ce que vous trouvez ça normal, sans problème, ou que ça vous fait tiquer un peu?
Oui,
c'est pas nouveau.
Il y a plein de précédents avec Antonio, avec plein Pieter de Villiers et plein de gens.
Les Écossais y ont recours.
Mais Benazi, ça avait été le premier.
Très souvent.
Il y a
la Coupe du Monde écossaise même.
Puis à la Coupe du Monde 2023, il y avait 8 équipes sur les 20 engagées qui avaient plus de 30% de joueurs qui n'étaient pas nés sur le pays. Après, les Samoa, les Tonga, c'est souvent des attaches familiales, donc c'est un peu différent.
Jérôme, l'Écosse, c'est impressionnant, l'Écosse.
L'Écosse, c'est impressionnant. Moi, j'ai pas à ma connaissance. Moi, ça me gêne pas à partir du moment où il y a un long passage dans le pays, le mec il est intégré, il parle la langue, etc. C'est pas très gênant. Par contre, ce qui est très étonnant dans les règles de World Rugby, c'est qu'il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec 10 joueurs.
Dans l'absolu, oui.
Même 15, si tu veux.
Ou 15, tu vois. Et c'est ça qui est très étonnant. Et pour un pays comme le nôtre, est-ce que c'est un bon message, tu vois?
Parce que c'est un deuxième ligne. Est-ce que.
Marion, le principe.
Chez nous en France, non, Marion, en Écosse ou au Japon, peut-être.
Oui, non, mais je suis d'accord. Mais après, là, c'est vraiment pour le 15 de France. Quand on regarde sur le poste à poste, c'est Méafou qui est, on va dire, en concurrence avec lui ou qui occupe ce poste de deuxième ligne de Locke. Donc moi, quand tu vois le 15 de France, t'essayes d'avoir la meilleure équipe possible, meilleur, avec surtout le meilleur banc possible. Donc, à partir du moment où t'as un joueur qui est éligible par les critères qui sont effectivement édifiés par World Rugby,
qui peut
rentrer là-dedans.
Je suis d'accord, Marion. Après, il y a quand même.
C'est plus sur le niveau de jeu, tu vois.
Il y a quand même le côté
par Pierre. Il a un très bon niveau de jeu.
Il y a il y a côté identité quand même. Quand tu regardes le 15 de France, alors tu as des spécialistes rugby et qui vont trouver ce mec impressionnant et génialissime. En revanche, quand tu es pas spécialiste rugby, que tu regardes l'équipe nationale, tu as envie d'y retrouver les joueurs français.
Tous ces mecs, ils sont super en général. Ils sont valeureux, ils sont sympathiques.
Ils ont envie d'être là. Mais lui, il a un vrai passé.
Il y en a très peu finalement. Qui marquent l'équipe de France de leur passage. Hein. À part Antonio, peut-être. Dis-moi, est-ce que
Abdelatif Benazi, il a quand même fait 70 sélections.
Non, mais Benazi, c'est pas pareil. Benazi, c'est nationalité
Peter
française.
Tony Marsh.
Il est né au Maroc, il est parti en France à Cahors, il a 20 ans.
Oui, mais peu importe, il a la nationalité française, Benazi. Donc il est
sélectionné
en tant que président. Là, c'est en cours.
Ça a été demandé aussi.
Il n'a pas le passeport, si tu veux. Alors, c'est quand même curieux. Olivier Giroud, il jouerait pour l'Angleterre? Tu vois, ça n'a aucun sens.
Surtout que la Coupe du Monde a lieu en Australie. Le bout du chemin, c'est l'Australie, c'est la Coupe du Monde. Tu te retrouves peut-être avec un joueur australien dans ton équipe à la fin de l'Australie.
Mais à fond, il est australien aussi.
C'est ça qui peut éventuellement être un peu gênant.
Mais Stanifors n'a jamais joué pour son pays d'origine.
Non, il n'a jamais joué.
Il a joué dans le
jeu. Maintenant, tu peux changer de sélection en rugby.
Une fois.
C'est changé une fois.
Tu peux pas.
Moi, si moi ça me gêne pas, si j'étais habitué à ça, donc, à partir du moment où
il y a une culture de ça,
une culture de ça, ouais.
De l'extérieur, c'est que dit Jérôme, de l'extérieur,
puis,
c'est
on dit souvent, alors c'est des vieux trucs, bien entendu, français par le sang versé, le rugby, il représente ça quand c'est des mecs de devoir comme ça. Je vois pas un mec comme ça qui, au bout de 5 ans, tu pourrais pas lui donner la sélection.
C'est sûrement parce qu'il le mérite. Ce qui est très simple, c'est que tu lui donnes la nationalité, puis il est sélectionnable.
C'est plus simple, ce qu'avait demandé.
La nationalité, elle est dure, oui, elle est dure.
Ce qu'avait demandé Bernard Laporte en 2016, il avait dit à partir de maintenant, les joueurs ne pourront jouer sur le français que s'ils ont le passeport. Ça avait retardé, par exemple, les sélections d'Alivier Tiraka et de Paul Willemse en 2018. Mais en fait, cette règle n'avait jamais été vraiment votée par le comité directeur, donc ils n'est plus revenus valable. En arrière.
Et Yann Aura,
a été sélectionné.
Et Yann Aura, de plus en plus, parce qu'ils sont intéressés par le système fiscal qu'on a en France. C'est ça, mais qu'ils vont faire des économies.
Et tu voulais nous en parler.
mais dans le foot, ça se fait beaucoup aussi. Hein.
De plus en plus.
Mais rappelez-vous, moi, quand je vous parle d'identité, rappelez-vous cette Coupe du Monde de handball au Qatar. Où le Qatar avait nationalisé quasiment ses titulaires. C'est ridicule. Là, par contre, c'est ridicule. Si tu veux, il n'y a plus d'identité, tu ne te reconnais pas.
Mais quand tu nationalises, il faut partir de l'État.
Mais par contre, le système fiscal du Qatar, là, c'est intéressant. Tu vois, c'est aussi
possible
pour ça. Alors,
c'est intéressant si tu es de nationalité qatarienne. Sinon, c'est moins intéressant.
Ouais. Évidemment.
En vélo, on devrait récupérer
tout. En revanche, les revenus sont un peu plus élevés.
Nous, les Slovaques ou les Belges, on aurait dû le faire.
Slovène,
oui.
Je vais y arriver.
Le journal moyen, première édition. Adrien, c'est maintenant.
La première édition, c'est maintenant. On va chercher un acteur pour incarner Johnny Hallyday.
Ah oui.
Alors, sans sosie, Vincent, sans sosie voix, comme tu l'as réclamé.
Ouais,
Jean-Baptiste Guégan n'est pas dans la liste. Guégan. Il cherche des acteurs. Et des acteurs.
Guégan.
Claude Guégan. C'est lui qui va incarner Johnny. et puis, tu vas nous dire le dispositif TF1 qui va diffuser le tournant Destination. Tout satisfait. Bon, alors, tu ne veux pas être objectif, il y a des copains. Il y a des copines de Vincent qui sont dans la partie.
C'est vrai ?
Bah oui.
Il y a Thomas.
Toms, bien sûr.
Il y a Thomas, moi, ça. Mais c'est une petite larme pour leur tour quand même.
Ils vont encore en commenter.
Ils vont en commenter, mais c'est quand même. Ça sale quand même, il les pousse un peu vers le bout. Bon, Larto a 60 ans aussi, il va falloir qu'il y aille. 15h40, le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h45, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic et c'est le journal moyen d'Adrien Gouet.
Oui, journal moyen Omnisport. On a Jérôme Pinault, le vélo, Marion Bartoli, le tennis, Pierrot, le foot.
Ça a hésité,
Et Vincent, comme Philippe Etchebest, le rugby et la boxe. À la une de ce journal moyen, première édition. Et l'acting.
Ah, et la cuisine, non
et la cuisine et le... T'as tout, toi.
Tu fais des œufs pour midi.
Ah, Pierrot, on m'a forcé, Pierrot. J'ai une nouvelle chanson de Patrick Sébastien de proposer. C'est pas moi qui ai décidé. C'est un des responsables de la rédaction d'RMC. Ouais, Marion, là, c'est chaud. On va chercher un acteur pour incarner un grand chanteur français, Johnny. Et puis un peu de télé, si on a le temps. TF1 a dévoilé son dispositif pour le tournoi. Ça fait bizarre de dire ça. On a l'habitude de voir le tournoi sur France 2. Il y a des amis de Vincent, quand même, qui sont là.
Ah, d'accord.
Vous écoutez RMC, c'est le 2500e.
Ah, non, non.
2500e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
D'abord, quand même, un petit point audience, on aime ça. L'audience de Marseille face à Liverpool sur Canal+. Troisième audience de la soirée. C'est quand même pas mal pour une chaîne payante.
Les comédies, ça a toujours marché.
Grande comédie hier, 3-0 pour Liverpool, 1,5 million, ça marche. Presque 9% de part d'audience.
3-0, les mecs, ils ont cru que c'était le film d'autonomie.
c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, troisième audience pour une chaîne cryptée, c'est quand même pas mal. L'OM qui était le record cette saison. C'était face au Real en début de saison. 2 millions de téléspectateurs. Sans transition, cinéma.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
Et là, Vincent, parfois, bah, tu connais ça, il y a des projets de films qui sont en fabrication et d'un coup, il y a une plantade et on ne sait pas si le film va se réaliser.
Bien sûr.
Coup dur pour une grande production, un grand projet, un grand biopic était prévu de Johnny Hallyday, film qui doit être réalisé par Cédric Jimenez, qui est un réalisateur à la mode. Il fait plein de films qui marchent.
Backlore, il a fait.
Projet soutenu par Laetitia Hallyday, qui avait donné son accord. Et ils avaient trouvé l'acteur parfait. Il était d'accord depuis juin 2024.
Et il est mort.
Raphaël Quenard. Non. Le jeune Connard. Raphaël Quenard.
Ah bon, parce que
vous connaissez Raphaël Quenard, c'est l'acteur qui était au César, qui a eu le prix du meilleur acteur, etc. Il avait dit, Laetitia avait dit de lui, sur ses films, je suis scotché par son jeu, ses regards, sa façon d'occuper l'espace. Il chante, il était prêt à chanter, Vincent, il est aussi chanteur. Je me suis dit que si un acteur pouvait incarner Johnny au cinéma, c'était lui. Coup dur.
Aujourd'hui, il annonce qu'à cause de son emploi du temps et les exigences liées au rôle, il ne pourra pas assurer le film. C'est un énorme coup dur pour la production. Il dit que les délais impartis, il peut pas se consacrer pleinement à la préparation parce que il se devait de chanter. Lui. Il voulait chanter, donc il y a une préparation de chanteur également. Il n'est pas chanteur professionnel, mais il aurait chanté, il sait chanter. Donc du coup, la question se pose, ils veulent faire le film, mais quel acteur pour incarner Johnny Hallyday au cinéma?
Ah, bah il y en a un quand même. Hein.
Alors qui?
Philippe Etchebest.
Non, mais peut-être.
Alors, attention, mais il faut avoir un acteur qui est capable d'incarner Johnny jeune et vieux.
Ouais, alors ça, c'est le maquillage.
Ça, c'est
le maquillage. Donc, il faut un mec qui a 30, 35 ans.
François Civil?
François Civil, il peut le faire, ouais.
Ouais, franchement, il a une bonne gueule.
Il occupe bien les... Qu'est-ce que ça veut dire? Il occupe bien les... Il y a Omar Sy aussi qui pourrait le faire.
Non, mais alors moi, je m'étais dit, la jeunesse.
Non, mais il n'y a pas Benjamin Voisin.
Eh ben, finalement, l'info que vient de sortir le Parisien à l'instant, Benjamin Voisin est favori. Vincent, il a 29 ans. Alors, il a tourné dans Été 85 de François Ozon et dans L'étranger également, le film de François Ozon.
L'étranger, oui, le mec.
Tu vois qu'il a besoin à moi en tournée.
Il a 29 ans.
Bravo, 29 ans.
Si je sais chanter, ça peut le faire.
Peut-être, voilà. Mais non, mais chanter.
Connard, ça aurait été autre chose.
Ah, Connard, il avait la gueule en fait. Il avait la gueule pour faire Johnny.
Mais pourquoi il ne peut pas le faire lui?
Parce que problème d'emploi du temps.
Le boulot, il est comme toi, Vincent. Il est surbooké.
C'est curieux.
C'est un gros défi quand même, un biopic de Johnny. Parce que Johnny, c'est un personnage, c'est un chanteur. Mais sa vie, bon, ça va, c'est la vie d'un mec qui a réussi dans la chanson, tu vois.
Ouais, mais il n'y a pas d'histoire, Pierrot.
Qu'est-ce que tu vas raconter?
Des histoires d'amour.
Histoire d'amour, super. Je suis content.
Les Avengers, c'est tourné aux États-Unis. Il est fou, lui. Il dit que Johnny a une vie banale.
C'est pas une vie banale, mais quel est le ressort, comment tu vas passionner les gens?
Quand il a fait la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, 14-18, et quand il était trahissé. Attention!
Non, mais Mohamed Ali, il y a des choses à raconter.
Ah oui, Mohamed Ali, ouais.
Benjamin Voisin, favori, Marion, tu as raison. C'est lui qui est le favori pour l'instant. Moi, j'aurais mis Civil pour la partie jeune, et j'aurais mis Samuel Le Bihan pour le Johnny Vieux.
Et moi,
et toi, t'aurais été Lidreno, une copine de Johnny.
Moi, j'aurais pu faire Laetitia quand même.
Sans transition, juste un petit dernier hommage à Johnny parce que le Dakar vient de se terminer là. On n'a pas trop suivi le Dakar, hein. C'est pas bien quand même. Souvenez-vous que Johnny il a fait le Dakar en 2002, il était sportif de haut niveau. Et souvenez-vous son interview.
Avec qui faisait le Dakar? Johnny. Avec qui il le faisait?
Mais je sais plus, il me dit.
Ah, avec les cuisiniers.
Bien sûr. Johnny, il arrive à une étape, après une spéciale, et puis regardez, ils arrivent un peu en retard. Écoutez son interview à l'époque sur France 2, Johnny.
Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et quart.
Bien sûr.
C'était un phénomène.
Il aurait été le meilleur pour incarner son rôle, Johnny. Hein, Sans transition, on m'a forcé à faire cette séquence, Spiro. Oui, parce que pendant les fêtes de fin d'année, Brigitte Bardot est morte, une légende du cinéma français. Donc hier, ce matin, un journaliste d'RMC, Antoine Varnier, c'est une sorte de chef d'RMC, d'RMC Sport, qui dirige les émissions de foot, de sport, en coulisses. Mmh. Antoine Varnier, qui souffle des réponses au Kikadi à Vincent également.
Pas du tout.
Et il me dit, Adrien, Patrick Sébastien vient de sortir une chanson hommage à Brigitte Bardot. Donc il m'a dit, je cite, il faut faire écouter ça à 20-20, ça va être énorme, et Pierrot va être énorme également. Bon, donc je vous diffuse la chanson de Patrick Sébastien qui rend hommage à Brigitte Bardot. La chanson s'appelle Belle et Rebelle. Patrick Sébastien, je précise, ancien président de Brive et ancien président de Vincent.
Mais sûr,
c'est pour ça qu'on se permet de faire le lien.
Et ami.
Tu vas juger de la chanson de ton ancien président, Vincent.
Ça se commence bien, genre.
Ouais, Cabrel.
Le plus bel oiseau du monde.
Merde.
Qui vivait à tire-d'aile. Aussi légère que profonde.
C'est pas mal.
Entre colère et dentelle. Ouais. Une femme libérée. De la prison des caméras.
Premier verdict, Vincent, avant le refrain.
C'est pas.
C'est peut-être ému, Marion. Je te vois pleurer, Marion.
C'est bien,
là.
Mais c'est bien écrit.
Alors, c'est sympa. C'est le mec qui trouve ça naze, mais qui peut pas le dire parce que c'est un ami.
Mais non, même pas du tout.
Le refrain, Suzanne, envoie.
Elle était belle et rebelle. Qu'elle soit
Loup ou Tourterelle.
Oh là là, un gros problème de son quand même, non?
Ouais,
dans un podium, ça.
Pas que.
Ah oui, mais c'est pas un. Pierrot, un petit verdict?
C'est nul, oui.
Non, mais c'est pas nul, donc c'est bien, ça.
Marion, un petit commentaire? Non, toujours pas.
Non, toujours pas. Je vais m'abstenir.
Voilà, voilà.
Je passe mon tour.
C'est-à-dire que quand t'entends Sébastien, tu t'attends à des serviettes qui tournent, des
kick-ass. Ouais, non, mais c'est pour un hommage à Brigitte.
Ouais, c'est un autre répertoire qui reste dans l'autre.
Voilà, c'est fait. Sa transition. Rugby et médias. Alors Vincent, révolution médiatique pour le tournoi des Six Nations qui débute le 5 février, on y est, hein. TF1 diffusera 9 matchs sur 16. C'est énorme, hein. Plus la moitié des matchs du tournoi des Six Nations sera diffusé par TF1, dont 2 matchs des Bleus du 15 de France, le Pays de Galles et l'Écosse, de beaux matchs.
Oui.
Et donc TF1 a dévoilé quand même, c'est important de savoir qui commente et qui présente son dispositif. Donc on est habitué à Mathieu Lartaud, Yajvi sur France Télévisions, Cédric Baudou, toute l'équipe. Bon, la première équipe de commentateurs qui est installée depuis le début des matchs sur TF1 reste Stéphane Etcheverry, que tu connais bien, et ton ami Thomas Lombard, directeur général du Stade français Paris. Et sur le en bord terrain pour les rencontres, Christian Califano. Bon, ça te trouve bien. On est bien là.
On est bien.
Expertise, bonne humeur. Christian, il est très bon sur le
banc. Très bon, impeccable.
Thomas, sérieux.
Sérieux.
Faut qu'il s'en mêle un peu plus parfois, peut-être Thomas, qui rigole un peu plus, non?
Non, il est sérieux. Il est dans le sérieux, Thomas. Attends, Thomas, il est techniquement super.
Et deuxième paire de commentateurs pour les matchs un peu moins importants.
Et pas pour faire rire la galerie.
Pierre Dodiès, le journaliste qui commande des matchs sur Bein Sport, c'est un jeune journaliste et consultant. Qui est prêté par Bein Sport, Xavier Garbajosa.
Très bien.
Oui. Ça vous convient, messieurs, dames?
Ça va, c'est impeccable.
Oui. Il est pas mal, Xavier Garbajosa.
Non, mais c'est bon, c'est une bonne équipe. Les mecs balancés sur Etcheverry, les mecs étaient durs. Ils ont envoyé sur Etcheverry, moi je trouve très bien.
Alors, les gens sur les réseaux sociaux ont été très durs avec Stéphane Etcheverry.
Non, mais maintenant, les réseaux sociaux.
Les gens sur les réseaux sociaux.
Ah ouais, des fois, il y en a deux ou trois qui lancent le truc et tout le monde suit derrière, alors qu'ils ne méritaient pas. Moi, je le trouve très bon. Très bon.
Ils ont été très sympas avec Vanessa Lemoigne aussi.
Oui, Isabelle Iturburu présentera, elle, le magazine Destination. Isabelle Iturburu sera là, sur place, pour les deux matchs des Bleus.
La beauté, la légende, belle et rebelle aussi.
C'est la meilleure, elle est très forte.
Elle est belle et rebelle, on peut le dire aussi.
Elle est belle et rebelle.
Elle est louve et tourterelle aussi.
Et un petit nouveau également sur le plateau du MAG avec Christian Califano, Isabelle Iturburu. Johan Hugé qui s'est greffé dans le
coup. Johan, Antonio Banderas. Ça c'est pour faire plaisir aux jeunes filles.
On est confraternel, Vincent. Sur France 2, il y a toujours des matchs de rugby, vous inquiétez pas du tournoi. Mathieu Lartaud, Yash Vidéo commentaire. Hélène Macurdi en bord terrain. Cédric Baudou, ton ami qui aura du travail. Avec Vincent Clerc. Et les autres matchs sont commentés par Marc Tamon et le consultant. Il a réussi à se libérer dans son emploi du temps qui est très chargé, tu nous le dis tous les jours. Yann Delegue.
Ah Yann, oh là là Yann, là parce que
il a réussi à se libérer. Il a du boulot Yann. Hein.
Ah bah lui, il fait des goûters même l'après-midi parce qu'il suffit pas d'un repas à midi ni le soir, il a des rendez-vous même l'après-midi. On peut dire au fond et au moulin.
Sur OM Liverpool, l'OM est-il passé à côté de l'événement? C'est la question qu'on vous pose au 32-16 sur RMC.
Cool les choses, Yann, oui. Allez, 15h56, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.